19 octobre 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Martin Thériault, Nicolas Cloutier et Anthony Desaulniers qui sont avec vous comme toujours chaque semaine pour parler des prospects un peu partout à travers la NHL, ceux qui sont déjà dans le show, ceux qui perdent, ceux qui sont déjà repêchés mais qui ne sont pas encore. On s'amuse avec ça à chaque semaine. Et messieurs, cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle d'un prospect de chez nous. Et quand je dis chez nous, je veux dire autant de la LHGMQ que de l'organisation du Canadien de Montréal, parce que c'est rare qu'un pic du Canadien domine dans la LHGMQ. Bien évidemment, je fais référence à Joshua Roy qui connaît tout un début de saison à Sherbrooke.
Mais moi, je suis très intrigué par Joshua Roy parce que tu sais, souvent, tu vas peut-être voir un espoir éclore après le repêchage ou justement éclore sur le tard dans le junior au fur et à mesure qu'il devient plus vieux. Et ce genre d'espoir-là, ben, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont dominer après au niveau professionnel. Mais Joshua Roy, c'est intéressant parce que tu sais qu'il y a un talent qui est en quelque sorte unique parce que c'est un ancien premier choix total dans la GMQ. Il y avait beaucoup de buzz autour de lui quand il jouait avec les Chevaliers dans le Midget 3A. Alors, il y a une base sur laquelle travailler. Et si c'est vraiment juste quelqu'un qui a compris sur le tard, ça, c'est extrêmement intéressant. Là.
Comprendre sur le tard, mais comprendre sur le tard davantage sur le plan de l'entraînement physique, de prendre soin de son corps. Parce qu'au niveau... Et c'est ça que j'étais en train de me demander en le regardant jouer. J'ai regardé son match, notamment, contre les Saguenay-Chicoutimi. Il a obtenu 3 points, puis il a été vraiment, vraiment dominant. Là, c'est notable de voir à quel point il est beaucoup plus dynamique, justement, parce qu'il a perdu du poids. T'sais. Mais je suis en train de me demander, justement, ça, c'est... Est-ce que c'est un piège que certains joueurs talentueux, que le talent leur sorte par les oreilles comme Joshua Roy, peuvent vivre dans le sens où tu es tellement dominant, tu es tellement talentueux. Il y a eu une des meilleures saisons Midget 3A depuis le début du 21e siècle. Puis, c'est comme, OK, mais j'ai pas besoin d'en faire plus. Je domine déjà tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Au lieu de faire 3 points par match, je vais en faire 4. Ça résonne pas nécessairement. Là, par contre, là, je pense qu'il y a eu une première embûche l'an dernier. Ça tendait à sortir beaucoup plus tôt au repêchage. Il n'a été repêché qu'au 5e tour, l'a reconnu de lui-même. Là. Je veux faire mentir toutes les équipes qui m'ont ignoré. Et là, ben, honnêtement, en voyant ces matchs du début de saison, je m'en cache pas, les gars, je vous l'ai dit tellement souvent, moi, ça a toujours été un des coups de cœur du repêchage 2021. Mais là, en plus, non seulement il me donne raison, là, mais justement, la petite coche de dynamisme qu'il est allé chercher parce qu'il est plus en forme, ça va très, très bien. Là. Puis constamment dans le visage de l'adversaire, c'est vraiment encourageant à voir.
Ben, je pense que tu fais bien de dire ça parce que les joueurs, avec ce temps-là, des fois, Marty, ils ont besoin d'un fameux wake-up call. Joshua Roy, ça allait plus ou moins bien, peut-être à un certain moment, à son année de repêchage, il se voyait glisser dans les listes. Et ça n'avait pas rapport qu'il se retrouve aussi loin avec le talent qu'il a. Et mettons que j'y vais d'une comparaison boiteuse. C'est comme si, mettons, John Daly, dans le temps, il pouvait boire 5-6 bières avant de jouer sa ronde. Puis il était quand même le premier dans le driving distance à la PGA. Penses-tu vraiment qu'il avait envie de perdre du poids? Lui, ça ne changeait absolument rien. Là. Mm-hmm. Lui, Joshua Roy, lui, il a eu son wake-up call. Il savait qu'à ce moment-là de sa carrière, il ne pouvait plus miser exclusivement sur son talent. À partir de là, c'est là qu'il s'est pris en main. Et je vais parler à Joshua Roy. C'est drôle qu'on la parle parce que je vais l'avoir en entrevue au téléphone vers 15h30. Il y a beaucoup de questions que je veux lui demander. Moi, j'ai même lu sur Twitter, là, c'est Greg McCabe qui a écrit ça, que depuis l'an dernier, il aurait perdu 25 livres. Là, j'ai énormément de doutes là-dessus, les gars. Là. Je veux bien croire qu'il s'est pris en main, mais 25 livres, là, c'est beaucoup. Mais forcément, il y a quelque chose qui a changé dans son approche, il y a quelque chose qui a changé dans sa méthode et ça paye en ce moment. Là.
Mais je regarde au niveau des chiffres, c'est incroyable. L'année passée, il est passé de 1 point par match à cette année, il est à 2 points par match ou presque.
Après 7 matchs.
Oui, l'échantillon est plus petit, ça c'est sûr. Mais il y a quand même 15 points en 7 rencontres. Moi, ça m'impressionne. Est-ce qu'on peut attribuer ce changement-là au fait que il avait vraiment de la misère avec les Sea Dogs et il a adoré justement son renaître à Sherbrooke. Est-ce que ça peut juste être ça, le fait d'avoir un nouvel environnement, d'être dans un endroit où est-ce que les gens t'apprécient, te font confiance et te mettent en valeur? Tu sais, je sais que Nick, tu lui parlais un peu de nutrition avec les Sea Dogs. Je comprends que mieux se nourrir, mais de là à produire à ce point-là, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il produit autant?
Ben, c'est honnêtement, ça peut être ça, là. Écoute, souvent, je pense aussi que les joueurs qui ont l'air de ne pas travailler sur la patinoire, surtout à un jeune âge, je pense pas qu'il y a vraiment un joueur qui se rend dans la GMQ ou même qui se rend dans le sport professionnel et qui n'a pas envie de travailler dans un contexte compétitif. Souvent, c'est plus compliqué que ça. Et Joshua Roy, c'est peut-être qu'il ne pouvait pas aller un gear plus haut parce qu'il n'y avait pas la forme physique pour aller là. Mais dès que tu manges mieux, tu obtiens une meilleure condition physique, là, tu peux aller chercher un gear de plus. Là, tu peux aller apporter plus de pression sur le porteur en échec avant. Là, tu peux faire le second effort que tu n'étais pas en mesure de faire si tu voulais aller de l'autre côté de la patinoire après pour couvrir tes coéquipiers. Alors, ça fait toute la différence carrément dans son jeu. Et même que, imaginons que pendant une séquence, son équipe est empêtrée dans son territoire, bien là, il va peut-être que si son défenseur réussit à sortir finalement la rondelle, il va avoir l'énergie pour aller à l'autre bout de la patinoire et créer une chance de marquer. Donc, dans tous les aspects du jeu, ça peut se répercuter. Là.
Et je te rejoins là-dessus, Nick. Puis c'est probablement ce qui explique. Là, il y a plusieurs détracteurs de Joshua Roy disaient qu'il manquait de constance, puis il reprochait un peu son éthique de travail. Mais en même temps, moi, ça a toujours été ce que je me demandais pourquoi les gens pensaient ça. Moi, je le regardais et je disais, écoute, il est constamment en train d'effectuer des replis défensifs, soutirer les bâtons à l'adversaire. Ça, c'est pas des caractéristiques d'un joueur qui manque d'éthique de travail. Exact. S'il manque d'éthique de travail, il va se laisser glisser de la zone adverse jusqu'à la ligne bleue, il va laisser son homme tout seul et ça va laisser son équipe vraiment dans le pétrin, si tu veux, au niveau défensif. Mais Joshua Roy, lui, c'était le contraire. C'est bon, de temps en temps, il était peut-être pas nécessairement bien placé, mais de temps en temps, il faisait des super gros jeux pour lever le bâton de l'adversaire, faire une relance rapide, super intelligent. Tu sais, il avait pas peur nécessairement d'aller dans les coins, etc. Là. C'était pas caractéristique et c'est là, en regardant son début de saison, tu dis davantage, OK, je pense que finalement, la forme physique avait joué pour beaucoup. Comme tu dis, là, Nick, là, quand tu es complètement fatigué, je sais, je l'ai déjà vécu là, personnellement, lorsque tu es complètement vidé, même si tu vas en donner davantage, tu n'as tout simplement pas l'énergie, puis tu vas arriver
exactement
en retard, le bâton va être... tu vas être un peu trop à bout de bras, tu n'as pas nécessairement de force, puis l'adversaire va te...
Puis même dans tes choix de jeu, mentalement, tu ne vas pas être aussi sharp si physiquement tu es épuisé.
C'est clair.
Ben non, tu te vois déjà perdant d'une bataille d'avance. Et là, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, évidemment, tu la perds finalement, ta bataille. Ouais.
Mais c'est pas une surprise là, qu'il connaisse un aussi bon début de saison. Il avait connu un excellent camp avec les Canadiens. Plusieurs personnes auraient aimé ça le voir poursuivre un peu plus longtemps, mais puisque la saison de la LHGMQ s'amorcer, on a décidé de le retrancher un peu plus tôt. Je dis pas qu'il aurait eu sa place avec le Canadien cette année, c'est pas du tout ça que je dis, mais un joueur comme ça qui est en feu à Montréal présentement, ça aurait pas fait tort parce que les Canadiens, eux, c'est beaucoup plus difficile, n'ont toujours pas de victoire. Et ce soir, ils auront dans le visage William Eklund. Est-ce que vous pensez que Eklund, qui a déjà ramassé son premier point en carrière dans la Ligue nationale, va être capable de signaler ce soir face au CH?
Ben écoute, il y a tout le temps ce fameux dicton-là ou cette fameuse peur-là maintenant qui s'est installée chez les partisans de CH qui dit « Maintenant qu'une recrue va jouer son premier match au Centre Bell contre nous, ben félicitations pour ton premier but dans la Ligue nationale de hockey. »
Exact. L'avantage c'est que William Eklund n'est pas québécois, au moins. Là, ça,
ouais,
ça
au moins. Oui, ouais. Lafrenière a accompli sa destinée, lui.
Mais penses-tu, Marty, qu'on pourrait quand même voir le premier but de William Eklund ce soir?
Bah, écoute, je vais pas me risquer à dire qu'il va marquer, là. Mais je sais pas si tu te souviens la semaine dernière, lorsque je te parlais de William Eklund, j'avais vu une période, puis je m'étais dit, bon, j'ai une opinion, mais on va pas se baser sur une période pour évaluer son jeu. Moi, je t'avais dit qu'il semblait très petit. J'étais pas certain que sa taille allait bien se marier à la Ligue nationale, du moins pas cette année. Je pense que dans les prochaines années, il n'y aura aucun doute, ça va être un joueur dominant. Mais là, tu vois son premier match dans la LNH contre les Jets de Winnipeg. Là, je l'ai vu au complet. J'ai vu toutes ses présences. J'ai vu comment il se débrouille. Et maintenant, je peux t'expliquer, c'est qu'il roule ses mises en échec. Oui, il est petit, mais lorsqu'il y a du contact, sa capacité de tourner sur lui-même est vraiment impressionnante. Là, en une fraction de seconde, il va avoir chance de faire un virage à 180 degrés, puis il est capable de redécoller immédiatement. Donc, même s'il n'est pas nécessairement très gros, moi, de ce que j'ai vu, ça ne dérange pas du tout le contact physique. Il y a une séquence que j'ai en tête, là, je pense que c'est en deuxième période. Jansen Harkins fonce vers lui comme un train pour le frapper. Puis il fait juste tourner un peu ses hanches vers la droite. Jansen Harkins fonce dans la bande, il a l'air vraiment fou. Là. Puis par la suite, non seulement ça, Eklund récupère la rondelle et ça permet une relance offensive. Là. Mais ça pour dire qu'il y a énormément de talent. Même lors de son premier match, on a vu certaines séquences où il n'avait pas peur de diriger. Plus le match avançait, plus il était confiant aussi. Là. Jouant un avantage numérique a quand même généré quelques occasions, notamment son point. Là, c'était un retour de lancer, je me souviens bien. Là. Honnêtement, c'est très impressionnant. Ça m'a rappelé à quel point dans les zones restreintes, là, justement, avec ses changements de direction, son agilité sur patin, ben ça lui donne vraiment un avantage. Et c'est pour la LNH, lorsqu'on dit que les petits joueurs parfois ont intérêt à rouler les mises en échec, lui, c'en est probablement le meilleur exemple. Même sur la patinoire, là, tu te dis, OK, il va se faire écraser tout rond. Là,
ouais, mais si je connais ça Dominique Ducharme, je pense quand même qu'il va tout faire pour essayer d'exploiter l'inexpérience des clowns. Là, c'est lui qui va avoir le dernier changement ce soir. Pour une recrue, ça peut être difficile un match à l'étranger. On l'avait vu avec Kotkaniemi. Je pense qu'il n'avait pas marqué à l'étranger lors de sa première année dans la LNH, ou pratiquement pas, en fait. Alors, du côté des match-ups, ça va être difficile. Puis on a des gros défenseurs du côté des Canadiens. Je sais que tu dis, Marty, qu'il gère bien le contact physique. Mais on va quand même s'en permettre là, beaucoup à l'endroit des clowns ce soir. On va tester Kidd. Je pense qu'il est sur le board du Canadien. En 2021, là, ça n'arrive plus qu'on découvre William Eklund là, durant un match de hockey. Le pre-scouting est trop développé, trop élaboré. On va déjà connaître un peu ses patrons de jeu. On a accès à je ne sais pas combien de séquences en Europe ou même dans le calendrier préparatoire. Donc, on va bien connaître c'est quel type de joueur, c'est comment il est dangereux sur la patinoire. Ouais. Alors, je ne m'attends pas à ce que ce soit un match nécessairement facile pour lui non plus.
Surtout, tu parles de découvrir un joueur. Je dis pas s'il avait été drafté en sixième ronde, puis que là, il amorce sa carrière dans la Ligue nationale contre ton équipe. Ouais. Mais quand un gars sort top 10 au repêchage qui vient juste de passer, exact. C'est sûr qu'on connaît son style de jeu, puis on a déjà absolument. Une bonne idée à quoi s'attendre.
Ah, il va être dans les stratégies de l'équipe. Là. Ça, je suis
en même temps, on ne se le cachera pas. Je te dirais que le plan de match en général pour Dominique Ducharme, c'est tout simplement de battre les Sharks. Je vous rappelle quand même que les Canadiens n'ont pas de victoire en trois matchs.
Ah ouais, oui, ça c'est sûr. Oui,
mais ça fait partie du plan pour les battre.
Et il y a d'autres trous, là, tu sais. Il y a Nathan Dallaire, je l'adore. J'ai toujours adoré ce joueur-là. Je suis content de le voir sur un premier trio. Je pense que ça peut être une carte cachée pour le trophée Calder. Mais dans n'importe quelle autre équipe un peu plus talentueuse, il n'y a pas d'affaires sur un premier trio. Donc,
absolument pas.
Donc, si tu es Dominique Ducharme, ce sont des petites choses que tu peux exploiter. Et non seulement ça, mais puis je ne veux pas m'étendre trop sur les Sharks, mais. Eric Karlsson contre les Jets, c'était pas encore tout à fait jojo.
Pourtant, il dit qu'il demeure un des meilleurs joueurs sur la planète. Enfin, c'est ça.
C'est bon, la confiance.
Il y a toujours une très belle confiance en lui, le bon Eric. Donc.
Ouais, pour les gens qui ça vous dit quelque chose d'Allen, puis vous ne vous souvenez pas exactement où ce que vous avez entendu ce nom-là, c'est le joueur qui avait été transigé pour Alex Burrows à l'époque, ouais. Lorsqu'il avait été passé au sénateur d'Ottawa. J'aimerais ça, les gars, si... Eklund n'a pas marqué encore dans la Ligue nationale qu'on parle d'Hendrix Lapierre. Parce qu'on le sait, on en a déjà parlé, Lapierre est un peu un placeholder pour Niklas Backstrom. Du moins, il doit prouver qu'il a sa place pour demeurer la saison complète. Mais quel moment magique il a vécu. Il a marqué son premier but dans la Ligue nationale à son tout premier match. Et moi, ce qui me touche encore plus là-dedans, c'est la célébration, c'est la réaction de TJ Oshie. Viens le kit, viens célébrer avec moi, tu le mérites. Honnêtement, j'étais quand même ému. Je m'imaginais sa famille, j'imaginais ses parents, puis je me disais, waouh, quel beau moment pour un petit gars de chez nous qui réalise son rêve marqué dans la NHL.
Ben, moi, c'est de voir aussi un Québécois qui commence à être adopté dans une capitale américaine. Écoute, c'est Wayne Gretzky qui parlait par-dessus lui sur le broadcast quand il a marqué un but. C'est de voir aussi qu'il y avait un chalet d'Ovechkin quand il était petit cul, puis après avoir marqué son but, mais c'est qui était à côté de lui en train de lui faire la collade? Mais c'était Alexander Ovechkin. Donc, c'est de voir que le petit gars de chez nous, Hendrix Lapierre, ben finalement, il commence à avoir une renommée internationale. Là. Je trouve ça beau à voir. Et moi, je pense pas que TJ Oshie aurait réagi de la sorte si c'était pas un aussi bon kid, là, clairement, les vétérans l'adorent. Il est arrivé avec une attitude A1 et c'est vraiment beau de le voir vraiment adopté là, à Washington.
Mais au-delà de son but, c'est une très belle séquence, là, justement, profiter de Oshie qui a coupé dans le centre de la patinoire pour créer un espace pour foncer au filet. Mais non seulement ça, là, comme je vous ai déjà dit, j'ai vu un peu quelques matchs préparatoires de sa part. C'est qu'il fait les bonnes choses de la bonne façon. Il travaille très bien, toujours bien positionné défensivement. Oui, il y a des choses à travailler. C'est le premier à le reconnaître. Là. Il nous l'a dit lors de l'émission l'après-match LNH vendredi dernier. Mais défensivement, pour un joueur de 19 ans, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il n'est pas fou. Il est de calibre pour la Ligue nationale. Puis même offensivement, il y a ce but-là, là, mais il en apporte également pour aller au filet, pour tenter de récupérer des retours de lancer, pour déranger les gardiens. Il se signale quand même très bien. Il y a une belle chimie à ce niveau-là avec Oshie. Puis, comme on disait, il travaille quand même assez fort également. Je pense que ce n'est pas pour rien que les joueurs des Capitals l'adorent parce que c'est un joueur qui a à peu près tout ce qu'il faut pour être un joueur de la Ligue nationale. Être bon défensivement, bon dans les deux sens de la patinoire. Tu t'impliques. C'est certain qu'au niveau physique, il y a des choses à travailler. Là. Il y a quand même seulement 19 ans. Mais je pense que c'est très encourageant. Là, c'est certain qu'il y a des blessés qui vont revenir. Là. Comme tu dis, Niklas Backstrom va revenir. Mais si ce n'était pas de cette situation-là, moi, je le garderais pratiquement. Là. Mais c'est juste que peut-être qu'il va manquer de place un peu.
Ben, c'est ça.
Mais il est un peu étrange, le calendrier de la Ligue nationale cette année, je trouve. T'sais, le Canadien s'apprête à jouer son quatrième match ce soir, alors que, pas Dawson Mercer, mais Hendrix Lapierre en a joué seulement qu'un, et ils vont disputer leur deuxième match, les Capitals, contre l'Avalanche Colorado. On s'entend, l'Avalanche Colorado, c'est pas des pieds de céleri, c'est quand même une bonne équipe, donc ça va être un bon test pour Lapierre. Mais je te rejoins, Marty, si c'était pas du fait que les Capitals sont autant stackés en attaque puis qu'on a vraiment une équipe bien nantie à pas mal toutes les positions, Lapierre me semble de calibre pour être capable de rester avec l'équipe tout au long de la saison. Mais là, peut-être parce qu'on ne voudra pas le reléguer sur un rôle de quatrième trio. On va préférer justement le renvoyer dans un niveau inférieur où est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer et se développer. Ce sera probablement la meilleure décision. Mais s'il y a des blessures, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre à Backstrom. Mais pour l'instant, Hendrix Lapierre là, remporte son pari et ne fait pas mentir les Capitals de l'avoir ramassé au premier tour.
La seule chose que je trouve un peu injuste, là, on a parlé de son premier match. Moi, j'ai trouvé qu'il était bon. J'ai trouvé qu'il s'est bien démarqué au niveau de son positionnement. Là, tout de suite, comme là, je vous disais, ce soir, on ne joue pas. Il est laissé de côté. C'est Connor McMichael qui va prendre sa place sur le troisième trio. La raison, Peter Laviolette, c'est de dire qu'il veut donner la chance à McMichael de signaler. Je comprends tout ça. Puis, j'ai pas vu le deuxième match de Lapierre. Peut-être qu'il a été horrible. Je ne l'ai pas vu. Sauf qu'en même temps, il y a quand même une espèce de rythme, de hype, si tu veux. Tu sais, on parlait d'Alexander Romanov la saison dernière à Montréal, là, qui avait eu un excellent début de saison. Puis à un moment donné, whoop, on l'a envoyé dans les estrades un match. Puis par la suite, depuis ce temps-là, beaucoup de problèmes au niveau de la constance. Puis je suis pas en train de dire qu'il manque de confiance, là. Mais ça l'a peut-être affecté à quelque part. Je dis pas que c'est ce qui va arriver avec Hendrix Lapierre, mais je trouve que la décision est un petit peu douteux, si tu veux, considérant qu'il a quand même bien fait. Là. S'il avait été déclassé puis tout, je dis pas, mais moi, je suis pas certain. En même temps, je comprends de vouloir donner la chance à McMichael. C'est un très, très bon espoir également que j'adore beaucoup. Là,
est-ce que c'est un peut-être piste de réflexion? Est-ce que c'est un peu le but d'étirer les 9 parties avant qu'il soit obligé là, de brûler la fameuse année là, pour lui permettre d'aller un peu plus loin dans la saison? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'assoit par parcimonie ici et là?
Peut-être. Là. Mais honnêtement, moi, je pense pas. Je pense qu'il est sincère en disant qu'il veut donner une chance à McMichael. C'est quand même le premier choix du repêchage 2019. C'est quand même, je vous le dis, moi, ça a toujours été un de mes coups de cœur de ce repêchage-là. Personnellement, dans une ligue simulée, je l'ai repêché. Donc, je l'adore vraiment beaucoup. Puis c'est un gars qui a un style très professionnel avec un excellent lancer. Sauf que de l'autre côté, Hendrix Lapierre, tu sais, ça prend une raison pour te faire sortir de la formation, si tu veux. Puis peut-être qu'il y a eu de quoi dans le deuxième match, mais moi, dans le premier, je pensais qu'Hendrix Lapierre avait tout à fait sa place dans la Ligue nationale. Justement, ça donnait de l'émotion aux joueurs qui étaient contents de l'avoir vu marquer. Puis je comprends qu'il y a eu Ovechkin aussi qui a dépassé Marcel Dion dans le même match, mais je veux dire, sur le plan émotif, ça donnait quelque chose. Donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu drôle, mais en même temps, je comprends de vouloir essayer Connor McMichael. T'sais.
Je vous reviens rapidement, les gars, j'ai besoin d'une charge.
C'est bon. Marty, on aura toujours l'occasion, je pense, de... Il y a certains pairings qui se font avec les années, des joueurs qui viennent un peu en équipe de deux. Puis je pense que je ferai toujours le lien entre Dawson Mercer et Hendrix Lapierre. J'ai l'impression que ces deux joueurs-là, lorsqu'on abordera un joueur, automatiquement, on se questionnera à savoir qu'est-ce que l'autre fait présentement. Eh bien, si ça se passe bien avec Lapierre, ça se passe aussi très bien avec Mercer. Lui aussi, il a récolté son premier point. Belle séquence quand même, lancée sur réception. Finalement, la rondelle se retrouve dans le filet et un de ses coéquipiers l'a mis sur le retour au fond des filets pour marquer. Donc, Mercer a obtenu son premier point dans la Ligue nationale. Lui aussi, je trouve que ça se passe bien. C'est fou à quel point j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey, tranquillement, passe le flambeau aux jeunes. De plus en plus, ce sont les jeunes qui se signalent. Et Mercer ne fait pas exception à cette tendance.
Mais tu sais, je sais que Nick, des fois, le mentionne souvent, mais tu sais, il y a tellement de spécialités chez les jeunes maintenant. T'as des spécialistes d'habileté individuelle, de patin, de force physique,
de tir,
etc. Puis ça fait en sorte que les jeunes, maintenant, sont beaucoup, tu sais, travaillent sur tous les aspects possibles, même sur le plan mental également. Fait que ça fait en sorte que lorsqu'ils débarquent dans la LNH, c'est pas comme dans les années 90 où tu es un peu laissé à toi-même. Ils ont tellement plus d'outils pour l'atteindre que je pense que c'est tout simplement, à quelque part, normal qu'il soit davantage prêt, plus jeune, à faire face aux rigueurs parce qu'ils ont tellement été conditionnés à tout ça. T'sais, je sais que Nick t'en parle souvent, là.
Non, absolument. Je veux dire, ils ont tellement de ressources, des ressources auxquelles, ben même, tu sais, ça évolue rapidement parce qu'il y a même 10 ans, voire 5 ans, les jeunes n'avaient pas accès aux mêmes ressources qu'on a aujourd'hui. Puis avec les réseaux sociaux, l'information est tellement accessible, tout se répand. Donc, vraiment, on a des technologies qui sont différentes, on a une approche qui est différente. Et avant, je veux dire, il y a une passe où c'était peut-être un peu plus rare là, qu'un joueur arrive tout de suite à 18 ans et connaisse du succès. Je ne dis pas qu'on les fait. Il y en a certains qu'on faisait quand même graduer à 18 ans, mais à 18 ans, ça prenait un peu de temps. C'était une saison qui était plus timide de 30-40 points. Mais maintenant, tu vois, mettons, un gars comme Austin Matthews arriver dans le show, faire 4 buts à son premier match, puis connaître une excellente saison en tant que recrue. Là. Et qui connaître une saison qui n'est pas loin de ce qu'il va pouvoir même offrir à son prime. Alors, de plus en plus, je pense que les jeunes, sans dire qu'il va falloir les brûler, va falloir peut-être s'ajuster parce qu'ils vont être prêts plus rapidement qu'on le pense. Là. Et il faut profiter de ces années-là. Si à 18 ans, il est prêt, puis finalement, je sais que théoriquement, tu ne peux jamais amener quelqu'un trop tardivement dans la LNH, mais le fait est que si à 18 ans, il est prêt et tu n'en profites pas, ben, ça peut quand même faire mal à ton équipe là, si elle a des aspirations.
Oui, mais la ligne est tellement mince parce que si tu le rushes dans la NHL et que finalement il n'est pas prêt et que sa confiance s'effrite et que là ça fait effet boule de neige.
Je continue de penser que oui, t'es mieux de prendre des précautions, mais de plus en plus, je dis juste que où ça s'en va, où ça évolue, de plus en plus les jeunes vont être prêts rapidement. Il faudra peut-être reconsidérer certaines approches.
Ouais, non, c'est vrai, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que même en défense, tu sais, le bon vieux jargon en défense a toujours été, faut prendre le temps avec les défenseurs, ils atteignent leur apogée à seulement 25-26 ans, prenons le temps. Mais plus tu regardes ça, regardez Jamie Drysdale à Anaheim, encore un superbe but en prolongation hier, puis il a 19 ans, puis à 18 ans, il a joué des matchs dans la LNH, puis il était bon, puis je vous le dis, il va être vraiment excellent, je l'ai toujours adoré, là, mais c'en est un bon exemple, ça. Je pense que davantage, là, les défenseurs, justement parce qu'ils sont plus préparés, ils ont eu plus d'outils dans leur coffre pour faire face aux rigueurs de la LNH, ben, ça fait en sorte qu'on va voir, je pense, davantage de défenseurs débarquer à 18 ou 19 ans et qui ne sont pas nécessairement des premiers choix au total. Là. C'est quand même intéressant à voir pour le futur.
Ah, mais tu parles des Ducks, Marty. Là. Quelle belle équipe de jeunes. T'sais, j'ai regardé aller hier, pour vrai. T'as Trevor Zegras, évidemment, qui est en haut de liste. Là. Mais ça va aussi à Benoît Lévi-Groulx, à Jimmy Drysdale. Il y a Troy Terry, qui n'est pas tant vieux non plus, mais qui est bourré d'aptitude. C'est vraiment une équipe qui est excitante à regarder aller. Moi, j'adore ce que je vois avec les Ducks. Puis autant il y a bien des gens qui les écartaient de facto en début de saison, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre.
Je savais que tu allais me parler de Troy Terry. Je sais que tu l'adores.
J'adore Troy Terry. Il est cool.
Alors, il a d'excellentes mains. On se souvient tous de son championnat mondial d'hockey junior où il avait marqué plusieurs buts contre la Russie en tir de barrage. C'est un joueur exceptionnel. Mais c'est pour ça qu'à quelque part, des programmes de reconstruction, si tu veux, un peu comme les Ducks, c'est là que ça fait du bien. C'est parce que tu vas te dénicher à peu près tous des joueurs du même âge et par la force des choses, tu te retrouves avec des joueurs de configurations différentes. Trevor Zegras est davantage un joueur, même s'il a un excellent lancé, là, mais c'est davantage un fabricant de jeu qui a des habiletés qui lui sortent par les oreilles. Autant que tu as un Mason McTavish à côté que lui, ça va être davantage le papier sablé, l'aspect physique, l'aspect d'aller au filet. Ça devient très complémentaire, même je ne suis pas en train de dire qu'ils vont jouer sur le même trio. Et là, tu as des Benoît Lévi-Groulx qui, moi, honnêtement, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté lors du match que je l'ai vu disputer là, contre Winnipeg, justement. Et lui, il apporte davantage une dimension physique. Il n'a pas vraiment d'aptitude offensive, mais pour créer de l'échec avant, pour déranger l'adversaire parce qu'il est gros physiquement, ils ont un excellent travail avec Nicolas Deslauriers. Tu développes le même espèce de groupe de joueurs du même âge. Tu sais, quand tu as le même âge, tu partages à peu près les mêmes passions, tu es à peu près à la même étape dans la vie.
Puis c'est plus facile. La même culture, les mêmes références, c'est plus facile de créer un lien. Là.
Ben, exactement. Puis je pense que ça fait simplement aider, non seulement au niveau du talent, parce que ce sont tous des joueurs de talent, mais également pour l'esprit d'équipe, d'avoir un noyau qui grandit ensemble. Tu sais.
Exact. Puis là, évidemment, j'ai laissé de côté Mason McTavish parce que je veux qu'on en parle plus en profondeur. Et c'est probablement l'espoir qui connaît le meilleur début de saison dans la LNH. À son premier match, obtenu 2 points, dont son premier but en carrière. Je m'incline bien bas. Moi, j'avais des réserves par rapport à McTavish dès son arrivée à 18 ans. Finalement, me fait mentir, un excellent lancé, se sert bien de son corps et amène une certaine énergie, un peu comme hier. Puis là, je sais que c'est un peu boiteux comme comparaison, mais Austin Matthews, de retour dans l'alignement, ça s'est tout de suite fait sentir. Quand il était sur la glace pour les livres, ça paraissait qu'il était là. Ben, McTavish, du moins à son premier match, quand il était sur la glace, on le sentait. On sentait qu'il drivait son équipe dans la bonne direction. Puis ça, c'est plutôt rare pour un jeune joueur.
Ben, je suis d'accord avec toi, mais tu sais quoi la leçon que tu dois en tirer, Dezo? C'est ne doute pas de Martin Madden fils. Tu vas le savoir pour la prochaine fois. Là, on ne doute pas de cet homme-là. C'est un génie du repêchage, un génie du recrutement et probablablement le meilleur candidat pour succéder à Marc Bergevin.
Oh, attention, là. C'est pas fait encore, là.
Non, c'est pas fait encore, mais on est quand même au stade où il faut penser à sa succession, là, série contre le gars.
Est-ce qu'il veut partir d'Anaheim, un beau poste quand même assez... plus quand même agréable là, de travailler à Anaheim, avoir un département de recrutement qui a toujours été excellent, puis de diriger à Montréal.
Et diriger l'équipe qu'il a lui-même construite, là.
Non, c'est ça, c'est quand même... C'est ça, c'est intéressant. Moi, je pense que il est peut-être très confortable avec les Ducks. Ça fait longtemps qu'il est là, mais bon, ça, c'est un autre débat.
Mais si on vient à McTavish, êtes-vous surpris à quel point il a rapidement été capable de s'imposer dans la Ligue nationale? C'est quand même une étape qui n'est pas facile nécessairement à parvenir, là, de passer à la grande ligue. Lui, il a fait ça un claquement de doigts. Là. Il ne semble pas du tout intimidé par la situation. Et peut-être parce que les Ducks sont autant jeunes puis se sent bien entouré avec plusieurs jeunes joueurs, est-ce que ça pourrait être un facteur pourquoi qu'il se sent autant à l'aise sur la patinoire?
Moi, je vais simplement dire une chose par rapport à Mason McTavish. Puis oui, il va avoir une belle carrière dans la LNH. Oui, c'est un... il a des aptitudes de leadership incroyables. Physiquement, il se débrouille bien. Mais patience. Je dirais, je veux simplement attendre de voir 6 ou 7 rencontres pour savoir où il se situe. Parce que oui, contre les Jets, il a été excellent. Là, tout ce qu'il faisait se transformait en magie, là, que ce soit sur le plan physique ou des chances de marquer. Là, il a marqué devant le filet, mais il y a une autre séquence sur laquelle il n'y a pas eu de point. C'est lui qui dérange le gardien devant le filet puis ça mène au premier but du match. Sauf qu'en même temps, j'ai également vu son match contre le Wild du Minnesota. Et dans ce match-là, je suis désolé, mais il a été assez invisible. Je me souviens pas honnêtement d'une... Puis là, c'est certain, je regardais davantage le Wild parce que c'est mon équipe. Puis je regardais ça davantage dans un angle que mon équipe l'emporte. Mais il m'a semblé un peu invisible. Là. Puis là, moi, c'est ça mon inquiétude. Il va être bon, là. C'est pas ça mon point. Il a quand même seulement 18 ans. Mais moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, les gars, c'est que je pense qu'au niveau offensif, pour être vraiment très dominant à 18 ans, je ne pense pas que ça va être nécessairement le cas. Et j'ai l'impression que plus les matchs vont avancer, plus qu'il va y avoir de rythme dans les matchs, peut-être qu'il va y avoir plus de difficultés à suivre, du moins sur le plan offensif. Pour déranger le gardien, ça, il n'y a pas de problème. Mais davantage, tu sais, je veux le voir produire. Tu veux le voir commencer dans la LNH avec un 6, 7 ou 8 points en 10 ou 11 ou 12 rencontres. Pas à 2 ou 2 matchs, puis là, tu commences à te poser des questions. L'entraîneur vient te dire « Ouais, là, faut que tu complètes tes mises en échec, faut que tu complètes ton échec avant. » Tu sais, des détails qui sont tout sauf offensifs, puis là, c'est là que ça peut jouer dans la tête du jeune. Parce que Mason McTavish, même si je l'avais plus loin dans ma liste que 3e au total, je continue à penser que c'est un joueur intéressant pour un top 6, un joueur qui a peut-être une plus grande utilité que la production offensive qu'il va apporter, parce qu'il apporte tellement plus au niveau, justement, physique et leadership, t'sais.
Exact. Moi aussi, je l'avais plus loin, mais force est d'admettre que pour l'instant, les Ducks ne se sont pas trompés. Mais évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour faire ce genre d'affirmation-là. Et on aura l'occasion d'y revenir là, tout au long de la saison et même dans les prochaines années. Si les Ducks ont décidé de faire confiance à McTavish dès cette saison, il y a d'autres équipes qui n'ont pas le luxe d'avoir leurs joueurs qu'ils ont repêchés au dernier encamp. Je pense notamment au Sabre avec Owen Power ou encore avec le Kraken et Matthew Beniers, qui sont respectivement les premiers et deuxièmes choix du dernier draft. Par contre, ces deux joueurs-là évoluent dans la même équipe à Michigan dans la NCAA. Et honnêtement, cette équipe-là, tu regardes ça sur papier, c'est pratiquement injuste. Non seulement ils ont Power et Beniers, ils ont des gars comme Ken Johnson, Thomas Bordeleau, ils en ont et Luke Hughes. Et Luke c'est Hughes. Incroyable à quel point ils ont du talent. C'est pas drôle, là, affronter Michigan dans la NCAA cette année. Là.
Ben, c'est un cheat code, honnêtement. Je ne sais pas à quel point ça respecte les règles du fair play du collège américain. Là.
Ah, mais c'est impressionnant. Puis, ben, c'est un peu normal, là, Michigan, selon moi, est probablement le meilleur programme de hockey dans la NCAA. Donc, tous les joueurs de grand talent veulent se diriger.
Et Michigan, c'est justement proche de où est installé le programme de développement américain. Là. Fait qu'il y a une certaine proximité, veut pas, là, pour les meilleurs joueurs américains qui se développaient là.
Non, c'est ça, tu as un excellent point. Puis sur le plan sportif, il y a tellement, je peux en nommer plein, là, des Quinn Hughes, des Max Pacioretty, Mike Camilleri, dans une époque antérieure. Il y a tellement de joueurs de talent qui vont là.
Connor.
Mais ouais, exactement, le fameux trio Kyle Connor avec Tyler Mott et JT Comfort qui avait été excellent à l'époque. Là. Mais tu sais, c'est tout simplement pour dire que t'attires tellement, ton programme est tellement renommé, donc tu attires tous les joueurs de haut niveau que tu peux, ça donne la chose suivante. Là, j'essaie de retrouver un peu la liste, mais pour les prochaines années, il y a encore plein d'autres espoirs de très, très grands talents qui ont décidé d'aller du côté de Michigan. C'est simplement incroyable à quel point de voir... tu sais, c'est... Je ne vais pas faire une comparaison boiteuse, mais c'est un peu comme au football universitaire avec le Rouge et Or et les Carabins. Ouais. Il est tellement dominant, tous les bons joueurs sont tes moindrement dominants que tu as une place avec leur équipe. OK, je m'en vais à Laval, je m'en vais à l'Université de Montréal. Mais je pense que c'est la même chose du côté de Michigan.
T'sais. Mais tu sais, dans la vie, des fois, ça nous prend des adversaires de haut calibre pour s'améliorer. Quand on affronte des équipes qui sont plus faibles que nous, on ne se donnera pas nécessairement à 100 000 puis peut-être qu'on n'ira pas chercher autant de développement qu'on pourrait le faire. Est-ce que de jouer dans une équipe boostée comme Michigan ou un peu comme le Steel de Chicago dans une autre ligue fait pas en sorte qu'on ne va pas chercher le maximum du joueur? Est-ce que là, il n'y a pas une réflexion à avoir de « Ah, justement, je peux me donner juste à 80 parce qu'on est tellement fort, on va gagner de toute façon. » Est-ce qu'il n'y a pas un bémol ici à apporter dans le développement d'un joueur?
Mais je pense que ça c'est, je veux dire, quand tu es dans une équipe de même, tu sais exactement c'est quoi une équipe gagnante. Fait que tu développes une attitude gagnante, une identité gagnante, et après, si ce joueur-là se retrouve dans une équipe qui perd, mais ça fait bien plus mal, parce que ce gars-là était habitué à gagner, c'était devenu une partie de son ADN, c'était devenu une habitude pour lui. Alors non, je pense que tu vas développer des bons plis, tu vas développer de bonnes habitudes d'être dans le bon environnement. C'est bien mieux que justement se développer dans un environnement toxique. Puis justement, développer des mauvais plis parce que, je veux dire, l'environnement est toxique, les gars ne sont pas contents quand ils arrivent à l'aréna. Alors non, je te dirais que c'est beaucoup plus un atout là, qu'un désavantage en développement de jeunes joueurs.
Mettons, je prends un gars comme Matt Beniers. Si, mettons, tu le sors de Michigan et tu le mets à UMass, mais là, t'es deux men. C'est sur toi qu'on compte. C'est toi qui dois tirer l'équipe. Je ne sais pas si ça ne fait pas en sorte que... Puis, j'ai rien contre Matthew Beniers, c'est vraiment juste un exemple. Mais là, il peut un peu se cacher derrière Ken Johnson, derrière Brendan Brisson, derrière Thomas Bordelot, derrière... Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a tellement de joueurs qui n'étaient pas nécessairement obligés de te donner à tous les jours pour le succès de ton équipe. C'est juste là la précision que je me questionne. Je ne dis pas que j'ai
raison. Je pense que plus tu gagnes, plus tu veux gagner encore plus. Tu n'es jamais rassasié vraiment. Alors non, je ne pense pas qu'à un certain moment, il se dit « Ah ben là, je n'ai pas besoin d'en faire autant. » Je pense qu'il est encore plus excité de gagner la prochaine là, avec les succès qu'il connaît en ce moment. Là.
Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Là. Oui, on parle des Michigan qui ont beaucoup de talent, puis avec raison, ils ont énormément de talent. Mais c'est des joueurs de haut niveau, mais des joueurs de moins de 20 ans également. Des joueurs de 18, 19 ans, parfois, là, il n'y en a pas cette année, mais parfois même 17 ans. Mais la NCAA, il y a des équipes là, qui ont des joueurs jusqu'à 22, 23, 24 ans qui ont un... Ce sont des joueurs, là, il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont atteindre la LNH, mais c'est tous des joueurs qui vont avoir 2, 3, 4 ou 5 ans même de plus que le noyau de Michigan. Donc, de dire qu'ils sont supérieurs et qu'ils vont dominer tout le monde 10-0, c'est pas vrai. Parce que les autres joueurs sont plus développés physiquement. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que j'ai vu Michigan jouer. J'ai regardé un match hier. Et le match était contre les Bulldogs de l'Université Minnesota Duluth. Une très, très bonne université qui est toujours assez dominante. Là. Ils ont plusieurs championnats nationaux lors des dernières années. Je pense que c'est même deux de suite, là, si je ne me trompe pas. Et je regarde leur âge, là. Ce sont tous la moitié des joueurs ont à peu près entre 21 et ils ont même trois joueurs de 24 ans. Et je te le dis, le début du match, Dezo, Minnesota Duluth était partout. Michigan avait de la difficulté à entrer dans la zone adverse. Physiquement, c'était difficile. Les joueurs de Michigan se faisaient frapper, frapper et frapper. Donc, c'est un peu ça, je veux dire. Premièrement, c'est pas vrai que Michigan va battre tout le monde 12-0. Ça, c'est impossible. Deuxièmement, tu regardes les statistiques. Tout le monde a des grosses statistiques, mais ils ont amassé la plupart de leurs points contre l'université Lake Superior State, qui est une belle université si tu veux jouer universitaire. Mais c'est une toute petite université sur la frontière canado-américaine avec Sault-Sainte-Marie, dans la région de Sault-Sainte-Marie. Mais c'est pas une très, très grande université qui va attirer des énormes joueurs de talent. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même de l'adversité. Comme je te dis que ça peut être physique, le match contre Minnesota Duluth, les joueurs se faisaient frapper pas mal. Moi, je pense qu'au contraire, ça leur montre à relever leur niveau de compétition, à dominer. Finalement, Michigan a gagné quand même 5-1. Mais ils ont dû travailler pour gagner ce match-là. C'était pas acquis dès le départ, parce que je pense que les tirs étaient 8-0 à un moment donné en faveur de Minnesota Duluth. Et ça, ça va être bénéfique de jouer dans un calibre où tu te fais brasser un peu davantage, là. Un gars comme Owen Power, notamment, là, je pense que ça peut être très, très, très bon pour lui. Je pense qu'une honnêtement, là, avec le recul, je pense que c'est une excellente décision de l'avoir envoyé dans l'année.
Ouais, mais ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, surtout quand tu regardes l'alignement des Sabres de Buffalo, puis pour l'instant, ça va très bien pour les Sabres, mais je pense qu'on s'attend tous à ce que cette équipe-là perde plus de matchs qu'elle en gagne au cours des prochains mois. On parle d'attitude, on parle d'environnement. Tu as le choix d'être à Michigan dans une équipe qui domine, ou est-ce que là, tu apprends à gagner, ou d'être rushé dans la LNH pour être dans une équipe de perdants qui, malheureusement, peut t'affecter à long terme. Je pense à un gars comme Taylor Hall. Il a passé je ne sais pas combien de saisons dans le début de sa carrière à perdre. Et là, il y avait un peu cette étiquette-là de gars qui s'en fout parce qu'au final, il vient juste collecter un paycheck. Mais le fait de laisser Owen Power à Michigan une année de plus, puis c'est pas les Sabres qui ont pris cette décision-là, c'est lui-même. Ouais. Et ça démontre à quel point c'est un joueur qui est intelligent sur la patinoire. Je suis d'accord avec toi, Marty, c'était la bonne décision.
Mais c'est ironique parce que les Sabres ont protégé leurs joueurs d'eux-mêmes. C'est ça qui est arrivé. Et moi, je vois quand même une constante, là. Combien de joueurs on va passer chez les Sabres? Comment de joueurs passent chez les Sabres et voient leur réputation complètement ruinée? Là? Est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs? Jack Eichel, sa réputation ruinée. Même affaire avec Taylor Hall quand il est passé. Rasmus Dahlin, déjà, on commence à douter de son développement. Casey Middlestad. Il y a une constante. Est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs à ce moment-là? Ou est-ce que c'est l'organisation en tant que telle qui va ruiner leur réputation? Ryan O'Reilly, la même chose est arrivée. Là. On avait des doutes sur son leadership. Et qu'est-ce qui arrive? Il va avec les Blues de Saint-Louis. Finalement, on se rend compte qu'il est bien correct. Ryan O'Reilly, il gagne le trophée Selkie. Il gagne le trophée Conn Smythe. Alors, je pense qu'il faut quand même se questionner. Alors, c'est bien qu'on ait pu attendre avec Owen Power. On l'a laissé bâtir une confiance. Puis, on l'a éloigné d'un environnement là, qui pourrait être potentiellement toxique. Là, encore cette saison.
Au-delà de l'environnement négatif, je pense que c'est de la façon qu'il joue que ça l'avantage beaucoup. Tu sais, la saison dernière, oui, il était bon, mais je trouve que, puis pour son gabarit, il a un bon coup de patin, là, mais je me disais, OK, il y a peut-être une petite chose à travailler à ce niveau-là. Au niveau des aptitudes offensives de se débrouiller dans les coins, malgré son gabarit, je pense qu'il y avait certains petits détails à travailler. Et le match que j'ai vu contre Minnesota de l'autre, là, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait, OK, beaucoup plus... Il s'est amélioré au niveau de l'agilité sur patin, beaucoup plus efficace. Là, il est plus... Tu sais, il était de calibre de la NCAA la saison dernière. Là, il est comme au-dessus de la moyenne. Au niveau de l'intelligence du jeu, c'est la même chose. Tu vois la glace super bien, voir des occasions de passer la rondelle. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire. Puis là, je pense que ce qui peut arriver au cours des prochains mois, c'est qu'on va arriver vers la fin de la saison. Ça va devenir trop facile pour lui, la NCAA. Ça va être le meilleur moment pour lui de signer un contrat dans la LNH, jouer la fin de la saison à Buffalo. Puis, tu sais, c'est une belle progression, tout simplement constante. Tu gardes sa confiance très élevée. Tu t'assures qu'il domine constamment. Puis là, plus ça va, plus il va dominer. Puis moi, je pense que vers quoi on s'en va, c'est que vers le janvier, février ou mars, il va être beaucoup trop dominant. Puis ça va faire en sorte qu'il va vraiment appuyer beaucoup l'attaque, qu'il va constamment foncer au filet, ce qui n'est pas nécessairement dans son jeu.
Ouais, il va travailler d'autres facettes de sa game, exact.
Je ne sais pas s'il aurait pu appuyer beaucoup l'attaque avec les Sabres cette saison, parce que, écoute, on aurait tellement insisté sur les carences défensives de l'équipe, les breakdowns dans leur territoire, que finalement, Owen Power se serait seulement concentré sur son jeu défensif, à ne pas faire des erreurs, il aurait joué sur les talons. J'aurais pas aimé ça le voir à Buffalo cette année. Mais peut-être en fin de saison. Et savez-vous quoi? Les Sabres ont gagné leurs deux premiers matchs. Et de ce que j'ai vu, même si les Canadiens Canadien était pas mal brouillon. Ils ont vraiment livré un bel effort contre les Canadiens. Il y avait plus de structure que ce à quoi je m'attendais. Ils ont beaucoup de cartes cachées, là, de joueurs dans l'ombre qui ont beaucoup à gagner. Donc ça peut faire une différence. Peut-être que finalement, à la fin de la saison, ils vont surprendre les Sabres et ils vont se dire « Ah, écoute, on est peut-être prêt à l'accueillir dans notre environnement. Finalement, on a bâti un bon programme de hockey avec Don Granato. »
Puis tu viens de parler des Sabres. J'ai également regardé le match contre les Coyotes. Puis ils ont complètement dominé les Coyotes. Oui, ça s'est terminé seulement 2-1.
Ça fait deux équipes qui dominent complètement.
Exactement. Ouais. Plus de 46.
Même si on peut se questionner sur la qualité des dites équipes, quand même, on s'attendait à ce que ce soit les Sabres qui soient l'équipe dominée pendant toute la saison. Là.
Non, c'est clair, mais j'ai regardé la game hier, Blues-Coyotes. Puis honnêtement, il y a un certain moment, en deuxième période, les Blues ont marqué 5 buts dans l'espace de 5 minutes. C'était pas chic. Puis en même temps, les Coyotes, on la sait, la stratégie, on la connaît, c'est de viser la cave pour repêcher haut. C'est vraiment la stratégie. C'est pas pour rien qu'on laisse partir un gars comme Ekman Larson, qu'on laisse partir un Connor Garland, qu'on laisse partir un Christian Vorak. C'est parce qu'on a identifié des leaders dans cette équipe-là. Clayton Keller, Jacob Chychrun, Dylan Gunter qu'on est allé chercher dans la transaction avec Vancouver. Et on veut rebâtir avec cette équipe-là parce qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas, ce qu'on avait en place. Puis c'est bien correct. Mm-hmm. Mais je pense que ça va être une longue saison pour les Coyotes et André Tourigny. Puis j'espère que le monde du hockey comprend ce qu'on tente de faire en Arizona et qu'on ne va pas lancer la pierre à André Tourigny, qui, selon moi, est un excellent entraîneur de hockey.
Non, mais là, je pense pas. Je pense pas que personne critique André Tourigny non plus. C'est tellement. Tu sais, l'équipe est tellement ordinaire. Pour être, tu regardes leur formation. Puis tu sais, un gars comme Andrew Ladd, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'a pas joué dans la LNH. Là, soudainement, se retrouve dans une formation régulière avec les Coyotes. T'sais, c'est là que tu vois un peu vers quelle direction on s'en va. Un Shane Gostisbehere, j'aime l'appeler un défenseur de reconstruction. Tu veux ces défenseurs-là pour t'aider à repêcher Shane Wright. Ouais. Il fait tellement d'erreurs là, que c'est fou.
Mais ça, c'est pour. Je pense que Tourigny, quand il a accepté la job, il a buy-in dans le programme de reconstruction des Coyotes. Il a accepté que ce soit une année d'apprentissage. Lui, ce qu'il fait cette année, c'est qu'il bâtit les fondations de l'équipe. Qu'est-ce qu'on veut comme système de jeu? Qu'est-ce qu'on veut inculquer comme valeur? C'est quoi être un membre des Coyotes? Qu'est-ce qu'on veut comme culture? Alors, au-delà de gagner des matchs, il va vraiment être concentré sur le processus, pas sur le résultat en tant que tel, mais de quelle façon on a perdu la game de hockey, parce qu'il y a une façon de la perdre, la game de hockey, qui est correcte, puis il y a même une façon de la gagner qui n'est pas correcte. Fait que lui, il va vraiment être plus focusé sur le résultat, le processus que les résultats. Et Mike Babcock, c'était pas mal la même affaire quand il est arrivé à Toronto avec son immense contrat. La première année, là, les Maple Leafs avaient fini dans la cave, si je me souviens bien. Et ça n'a pas pris trop de temps avant que l'équipe finisse par faire les séries. Je pense qu'il l'avait fait déjà l'année d'après. Alors, Babcock, première année, installe son système de jeu. Et après, rapidement, là, ils ont pris leur air d'aller. Donc, dans la LNH, ça peut changer vite. Là. C'est une année peut-être de reconstruction, d'apprentissage pour les Coyotes. Mais rien qui dit que l'an prochain, déjà, on ne pourrait pas avoir des changements, une progression notable.
Mais ça, c'est l'histoire. Mais tu sais, c'est l'histoire d'Henri Tourigny. Honnêtement, là, il a passé sa vie à faire ça. Il est débarqué avec les Huskies de Rouyn-Noranda. C'était une équipe, on ne se le cachera pas, c'était une équipe du fin fond de l'Abitibi que les gens ne voulaient pas nécessairement y aller. Il est allé instaurer une culture de gagnant, une culture d'une équipe qui allait travailler très fort. Ça a fait en sorte que cette équipe-là est devenue une des bonnes équipes dominantes de la LHMQ, une organisation réputée. Lorsqu'il est parti, ensuite, il y a des Gilles Bouchard, etc., Mario Pouliot.
Son héritage se fait encore sentir à travers ces autres personnes-là, oui.
Exact. Là, ça demeure encore une fois, les Huskies, encore aujourd'hui, une équipe travaillante. Ça, c'est André Tourigny qui a apporté ça. Mm-hmm. Par la suite, j'ai oublié Halifax parce que seulement passé un an là, mais par la suite, du côté des 67 d'Ottawa, c'était une organisation dans la OHL très prestigieuse qui commençait à piquer un petit peu du nez. Ça faisait plusieurs années qu'on... Il y avait des joueurs qui atteignaient la LNH, là, je pense à Tyler Toffoli, mais c'était pas des grosses équipes qui se battaient pour des Coupes Memorial. André Tourigny est arrivé là, il est parti vraiment du départ. Là. Il y a eu des saisons très difficiles. Je me souviens d'avoir assisté à un match où les 67 avaient des Kevin Ball très jeunes qui avaient beaucoup de difficultés à signaler une équipe qui était en reconstruction. Et par la suite, a amené une culture de gagnant, a aidé le développement de certains joueurs. Marco Rossi a choisi André Tourigny et Ottawa simplement pour avoir accès à cet entraîneur-là qui a une très bonne réputation de développer des jeunes. Et là, par la suite, c'est simplement le même mandat qu'il a à faire en Arizona. Il a gardé un défenseur comme Victor Soderstrom dans sa formation. Oui. Et je pense que là, lui, le défi pour André Tourigny, ça va être de développer également un défenseur qui a un très, très beau potentiel à ce niveau-là, puis de l'amener à devenir un défenseur, c'est pas un défenseur de première paire dominant dans la LNH, au moins top 4.
Je pense que les Coyotes avaient un certain intérêt ce matin pour la liste qu'a dévoilée la centrale des recrutements. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça passer, mais selon la centrale de recrutement, 23 joueurs ont été classés. Puis quand je dis vous, là, je ne parle pas de vous deux. Là, ça, je sais que vous l'avez vu passer, mais je parle des auditeurs à la maison. Là, la centrale de recrutement.
Okay, je pensais 23... que nous, si on avait été classés dans la liste.
Okay, non, Nick, je m'excuse. Tu n'as pas fait la cote.
Moi, c'est mon plus beau rêve. Là. J'attends avec impatience.
J'attends juste d'améliorer mon coup de patin après. Je pense que je vais peut-être être juste ça.
Appelons Jackan, où est-il? 23 joueurs ont reçu la note de A, ce qui veut dire qu'on les pressent, c'est très très tôt dans la saison, mais on les pressent au premier tour au moment où on se parle. Si jamais vous voulez consulter la liste complète, elle est sur notre Twitter de podcast La Relève, vous pouvez aller la voir via notre plateforme Twitter. Évidemment, sans surprise, Shane Wright a reçu la note de A. Au moment où on se parle, je pense qu'il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y en aura un peu plus tard dans la saison? C'est possible. Mais au sommet, je pense que c'est vraiment le joueur qui triomphe au premier rang du prochain encart de la Ligue nationale.
T'aurais pu lui donner carrément A+, là, peu importe. Là, mais juste pour expliquer rapidement comment ça fonctionne à ceux qui sont peut-être moins initiés, là, c'est vraiment pas compliqué. Là. Le premier classement là, que la centrale va publier, ils vont pas vraiment s'affairer à classer les joueurs en tant que tels. Ils vont donner une note de A pour les joueurs qui sont pressentis à être pêchés au premier tour, puis une note de B après pour les rondes subséquentes, là, la deuxième ronde. Donc, c'est vraiment un exercice qui est très préliminaire, là, mais ça peut donner une bonne idée de quel joueur on va vraiment surveiller plus étroitement là, pour le reste de la saison.
Mais je vous pose la question, est-ce que pour l'instant, Shane Wright, c'est encore le numéro un incontesté dans votre tête?
Absolument.
Oui, sans aucun doute. Honnêtement, il est un mille devant les autres. Là. C'est du calibre à Connor, peut-être pas Connor McDavid, là, mais à Austin Matthews, à John Tavares, à ces joueurs-là vedettes. Lui, tu le vois immédiatement à 17 ans, puis tu te dis, OK, lui, c'est une super vedette, c'est certain, dans la LNH. Et là, tous les autres en arrière, il y en a certains qui vont être des vedettes, mais de le dire en ce moment, hors de tout doute, c'est impossible. Wright est supérieur à tous les autres niveaux. Il a un lancer foudroyant, joue bien défensivement, il a un bon coup de patin, joue bien dans les deux sens de la patinoire.
On a un peu au repêchage, dans le fond, aux antipodes de l'année dernière, dans le sens que l'année dernière, tu avais plus un repêchage de joueurs A-B+. C'était pas un mauvais draft, mais c'était pas un draft où ce qui allait produire nécessairement des joueurs générationnels. Cette année, je pense que Shane Wright est un bon candidat pour transformer une équipe de la Ligue nationale. Puis, je m'attends à ce qu'il y ait des équipes comme les Coyotes qui, justement, ça fait partie de leur stratégie d'espérer de mettre la main sur ce talent brut-là qui est Shane Wright. On l'a vu, au moins 18 ans, il était dominant, puis il n'était pas dans les plus vieux. Donc, je pense que ça fait pas de doute qu'il sera un bon joueur. Mais quand je regardais les listes préliminaires, il y a quand même de cela quelques semaines, il y avait un gars comme Brad Lemberg qui sortait pour le challenger. Certains le voyaient deuxième, certains le voyaient troisième. Mais je regarde ses statistiques pour l'instant, il n'a qu'une seule petite passe en 9 parties. Qu'est-ce qui se passe avec Lemberg, Marty? Est-ce que c'est un joueur qui est étouffé un petit peu par la pression présentement de savoir que c'est son année de repêchage?
Ben, je ne sais pas si c'est de la pression. Il ne faut quand même pas oublier que c'est la Liga finlandaise. C'est quand même une ligue professionnelle où il y a des anciens de la LNH qui évoluent. Ce n'est pas une ligue nécessairement facile non plus. Là. Surtout, certainement pas pour un joueur de 17 ans. Moi, ce que je constate beaucoup avec Brad Lambert, c'est que c'est... honnêtement, sur le plan défensif, la façon de jouer le match, de se positionner défensivement, il est très, très bon. Il est pratiquement pas parfait, là, mais ça
il
va...
Il est presque NHL ready pour ça, honnêtement. Là. L'aspect défensif de son jeu, là, c'est un centre qui se replie énormément. C'est sûr que ses défenseurs l'adorent.
Pas presque. Moi, je pense qu'il est prêt pour la LNH à ce niveau-là. Il se replie énormément, travaille avec ses défenseurs pour soutirer des rondelles, puis effectuer des relances rapides. Puis sur le plan des qualités naturelles, si tu veux, il les a. Il a un très, très bon coup de patin. Il est gros, il est imposant. Il a quand même de bonnes mains. Mais là, le facteur, moi, qui m'amène un bémol dans le cas de Brad Lambert, et selon moi, c'est le plus important pour être repêché très haut dans un repêchage, ben, c'est le sens offensif. Lorsque tu arrives de l'autre côté de la patinoire, moi, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Oui, il y a des feintes, mais souvent, ça ne fonctionne pas. On va se faire soutirer la rondelle ou... Il n'y a pas de flash, là. Il n'apporte pas nécessairement d'offensive, il n'y a pas nécessairement de chance de marquer, du moins les deux rencontres que j'ai vues. Là, ça laisse un peu à désirer, mais on verra. Je pense que lui, les compétitions internationales de moins de 20 ans vont être intéressantes dans son cas. Comme je vous ai dit, il y a de la difficulté offensivement, mais en même temps, il joue contre des hommes, il joue contre des adultes qui savent davantage comment se positionner défensivement. Et c'est peut-être moins impressionnant de voir un joueur de 6 pieds 4 pouces débarquer. Lorsqu'il va débarquer contre des joueurs de 18-19 ans, là, peut-être qu'il va sortir davantage et qu'il va être vraiment dominant. Je pense que ça va être intéressant à suivre de ce niveau-là, à ce niveau-là.
Ouais, parce qu'il faut bien comprendre, là, il ne joue pas sur le premier trio. Là. Il joue dans une ligue d'hommes, puis c'est pas facile pour un jeune de se démarquer. Et c'est là où est-ce que c'est intéressant que son compatriote finlandais, parce que Brad Lambert, autant ça sonne canadien, c'est un Finlandais, Joachim Kemel, est absolument hallucinant. Lui, en contrepartie, il a 15 points depuis le début de la saison. Et lui aussi, c'est son année de repêchage. La plupart des gens mettaient Kemel derrière Lambert. Mais là, c'est sûr que Kemel gagne des points. Là. C'est sûr qu'il se rapproche de Lambert et du sommet du repêchage.
C'est un écart qui est quand même probant. Là. On parle de contexte quand même semblable dans une même équipe. Tu as un gars qui a une passe en 9 matchs, tandis que l'autre est carrément le premier pointeur de son équipe. Il ne devrait pas être premier pointeur de son équipe à cet âge-là. Mais honnêtement, pour Lambert, j'ai juste envie d'avoir un plus gros échantillon. Je trouve qu'il est vraiment tôt pour se prononcer. Attendons un peu. Là, c'est pas comme si c'était sa deuxième année dans la Liga non plus. Il se trempe les pieds dans une nouvelle ligue. Je pense qu'un bon échantillon pour commencer à jaser, c'est une quinzaine, une vingtaine de matchs. Puis il y en a seulement 9 dans le corps.
C'est sa deuxième saison dans la Liga, par contre. Il a joué
sa saison dernière, c'est vrai. Ouais.
Mais quand même, là, c'est un peu là que les gens s'inquiètent, c'est qu'il y a quand même eu une production respectable. Là, si tu veux, il avait éclipsé des joueurs comme Atu Ratu et Patrick Puistola. Puis là, c'est là que les gens se demandent OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une baisse de production? Peut-être qu'il est davantage en train de s'habituer justement sur le plan défensif. Je pense pas qu'il avait nécessairement ces qualités-là la saison dernière. Est-ce que c'est ça un peu? Il est en train de travailler davantage son jeu défensif, quitte à sacrifier peut-être un petit peu plus offensivement. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Comme je disais, je pense qu'on va voir davantage au niveau des moins de 20 ans, lorsque le calibre va être un petit peu moins relevé. Là, je pense que là, on va avoir une meilleure idée de voir qu'est-ce qu'il est capable d'apporter au niveau offensif, parce que ça va tout simplement être plus facile, tu sais.
Je compare pas les joueurs parce que à tout, pas du tout le même style là, que Brad Lambert, puis était beaucoup plus éparpillé là, sur la patinoire, là, plus une vision tunnel là, de la chose. Mais est-ce que ça sera pas le à tout 2.0, le joueur qui était haut classé et qui finalement ne va que dégringoler tout au long que la saison va progresser et qui finalement va être repêché vers la fin du premier tour?
Ben, ça se peut. Je veux dire, les classements préliminaires, là, oui, ça nous donne une idée, mais au début de la saison, il y a beaucoup de joueurs qu'on plaçait dans le top 10 qui finalement n'ont même pas été repêchés dans les deux premiers tours. Là. Dans les dernières années, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Sokolov une certaine année que le Wild avait repêché, Marty, c'est ça?
Oui, le Wild avait sectionné.
Dans les classements préliminaires, je le voyais souvent dans le top 10, lui, à son année de repêchage. Oliver Shillington, ça avait été la même affaire. C'était supposé être le prochain prodige. On le voyait carrément dans le top 5. Maxime Comtois aussi, c'est arrivé dans Q. On le voyait parmi les 5-10 premiers à l'aube de la saison. Il y a tellement de volatilité. Dans une année, là, le classement peut virer de bord complètement. Alors, ça se pourrait. Là, je veux dire, oui, c'est tôt pour se prononcer, mais c'est une possibilité. C'est jamais figé, les classements préliminaires. C'est très, très... Il y a beaucoup de mouvements, là.
En même temps, moi, je serais surpris de le voir glisser comme Ratu. Tu sais, Ratu, l'affaire avec Ratu, c'est offensivement, il n'en apportait pas beaucoup. Lorsque tu le voyais jouer avec son style de jeu, c'était davantage, OK, c'est un joueur énergique, efficace vraiment défensivement. Tu regardais son potentiel offensif, puis ouais, il n'y a pas vraiment de lancer, il n'y a pas vraiment de main, il n'y a pas vraiment...
Pas de vision.
Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de point au tableau. Donc là, tu te dis, OK, je suis pas certain que finalement que c'est un premier choix total. Ce qu'on pensait qu'il allait être le cas il y a environ 2 ans. Mm-hmm. Brad Lambert, malgré qu'il n'a pas nécessairement de statistiques et qu'il ne montre rien offensivement présentement, moi je me souviens de Brad Lambert avec un excellent lancer et assez foudroyant. Là, c'est juste qu'il ne l'utilise pas. Mais s'il se met à l'utiliser, attention, puis il a un excellent coup de patin et il a quand même un bon gabarit. Ça indiquait 6 pieds, mais selon moi, il est plus gros que ça. Là. Donc, avec tout ça, moi j'ai l'impression, OK, je pense qu'il y a matière à penser qu'avec toutes ces aptitudes-là, mais je pense qu'il est capable de produire. Contrairement à contrairement justement à tour à tout.
Ça va être intéressant à surveiller, puis c'est clair qu'on aura l'occasion de se pencher plus en détail et en profondeur sur le repêchage 2022, puis ça va être amusant de le faire comme on l'a fait l'année dernière, puis je suis sûr qu'à la maison, vous allez avoir beaucoup de plaisir à le faire avec nous. Un dernier mot sur...
Je veux simplement revenir sur Joachim Kennel, par contre, parce que honnêtement, moi, contrairement à Lambert, qu'on se pose des questions, moi, il m'a vraiment impressionné. Je l'ai aimé. Il a joué des matchs avec la Finlande lors d'un tournoi préparatoire pour le championnat mondial junior aux États-Unis. Tout de suite, là, je l'avais adoré. Je dis, OK, il y a des petits problèmes au niveau défensif. Tu vois que physiquement, il n'est pas encore tout à fait développé, mais je trouvais qu'il avait d'excellentes mains, très offensif. Puis plus ça va, puis là, c'est sûr que c'est facile à dire parce qu'il est premier pointeur, non seulement de son équipe, il est premier pointeur de la Ligue finlandaise à 17 ans. Ça, honnêtement, c'est historique. Je ne dis pas qu'il va continuer. S'il continue sur ce rythme-là, c'est une saison vraiment historique. Ça ne s'est jamais vu.
Je suis allé sur les statistiques,
là. Le meilleur pointeur de moins de 18 ans de la Liga finlandaise de l'histoire, c'était Alexander Barkov avant son année de repêchage.
Oui. Exactement.
Barkov avait obtenu 48 points en 53 matchs.
Ça, on n'avait jamais vu ça. Vraiment, même Rantanen n'avait pas eu des statistiques semblables à l'année de son repêchage dans la Liga.
Exactement. Mais c'est pour dire à quel point c'est impressionnant. Puis Barkov, on le sait à quel point il est dominant dans la LNH. C'est exact. Un des meilleurs. Là, c'est probablement, selon moi, c'est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. Mais Barkov, lors de cette année-là, en termes de points dans la Liga, premièrement, c'est pas un point par match. Et il était 9e pointeur. Là, Kemel, c'est lui qui se promène avec le casque doré sur... Moi, je trouve ça plaisant, honnêtement, suivre le casque doré. Là, ça m'est pas arrivé souvent.
Mais c'est cool, là. Ouais.
Ouais, c'est pas pire. Mais tout ça pour dire qu'honnêtement, plus je le vois jouer, meilleur il est. Je te disais que physiquement, j'avais peut-être des doutes au mois de juillet. J'étais, OK, je vais le placer... Je le place top 10, mais davantage dans les alentours du 9e rang. Mais là, physiquement, il se débrouille quand même bien. C'est pour Lambert, mais... capable de gagner des batailles, puis il n'a pas nécessairement l'air fou. Il a encore d'excellentes mains, il est encore meilleur. Là, c'est certain qu'il joue avec beaucoup, beaucoup de confiance parce qu'il a des points à tous les matchs. Puis, il a un lancer tellement foudroyant. À l'avantage numérique, on l'utilise maintenant à gauche, là, dans une formation parapluie, pas nécessairement au même endroit qu'Ovechkin, mais lancer foudroyant. Et non seulement ça, selon moi, ça le rend encore plus intéressant. Il carbure au moment important dans un match. Le match que je l'ai vu jouer, son équipe perdait 4-2. 45 secondes de la fin de la troisième période, je vous rappelle que c'est 4-2, effectue une passe. Le but pour réduire l'écart. À 15 secondes de la fin, décoche un lancer foudroyant 4-4. On se retrouve en prolongation. Qui marque le but vainqueur? C'est lui avec un autre lancer foudroyant en ayant mis beaucoup de pression tout le long de la prolongation. Donc, moi, honnêtement, je trouve qu'il y a pratiquement tout pour dire « OK, ça va être un joueur tellement dominant dans la LNH, pas le plus gros, mais futur vedette. » Moi, honnêtement, je suis obligé de le placer deuxième derrière Wright. Pour l'instant, là, on va voir comment ça va évoluer, mais deuxième, ça. Non.
Mais ce que j'aime de ce que tu dis, Marky, c'est que c'est vrai que c'est pas le plus gros, puis je regarde ses mensurations, il est classé à 5 pieds 10, mais par contre, il est extrêmement fort. Ses jambes, il protège la rondelle, il est capable de se mettre en opposition avec son corps, tu sais, ça arrive des fois que Junior, tu as des gros joueurs qui vont tirer avantage de leur gabarit pour protéger le disque. Mais lui, c'est pas ça. Mais il prend les moyens pour y parvenir. Il travaille très fort pour justement conserver la possession du disque. Puis moi aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup par son énergie. Puis là, il n'a que 17 ans. Sera-t-il en mesure d'encore prendre du poids, d'encore prendre un pouce ou deux? Pourrait devenir vraiment une machine, là, un power forward par excellence. Je suis d'accord avec toi. Son gabarit n'est pas... son atout, mais il travaille pour que ça devienne justement un atout majeur dans sa game.
T'sais, je regarde les classements, là, il est classé par les gens environ entre 9, 10 et peut-être 15 environ. Là. Mais avec ce qu'il fait là, puis si ça continue comme ça, moi je vous le dis, ça va... T'sais, on parlait de Mason McTavish qui a monté très haut avec une belle performance au championnat mondial des moins de 18 ans. Honnêtement, Kemel, avec ce qu'il fait là, je pense que ça va simplement lui faire gagner des points. Là, c'est certain qu'il y a beaucoup de candidats pour le deuxième choix, par contre. Ivan Miroshnichenko est excellent. Un Matthew Savoie dans l'Ouest canadien est excellent également. Tu as plusieurs candidats. Mais Kemel, alors, tu ne peux pas exclure ce qu'il fait en ce moment. C'est sûr qu'il est peut-être un peu petit, mais tellement, tellement talentueux. En tout cas, moi, je l'adore. Je l'ai assurément. Il va assurément être top 5. Est-ce qu'il va finir deuxième à la fin de l'année? On verra, mais pour l'instant, moi, ce serait mon choix pour le deuxième rang.
C'est sûr qu'on va suivre la progression de Joachim Kemmel et de tous les autres espoirs, comme je le disais il y a quelques minutes. Là, ça va être amusant de suivre ça tout au long de la saison et on va vous partager nos impressions tout au long de la campagne. On va aussi suivre un article attendu sur Joshua Roy. Nick, on le sait tout à l'heure, tu vas faire ton entrevue avec Joshua Roy. J'ai bien hâte de lire ça sur le TVA Sport. Est-ce que tu vas faire une intervention à Jean-Charles à cet effet ou c'est seulement...
On verra. J'ai pas encore. Tout dépend de ce qui sort de l'entrevue. Là, on verra bien.
Mais en tout cas, Nick, moi, j'y avais parlé à Joshua Roy l'été dernier. Là, tu vas adorer. Honnêtement, c'est vraiment
c'est un bon kid. Il va être intéressant dans ses réponses.
Ouais, okay. Il est très intelligent. Tu vois qu'on avait discuté un peu ici comme ça de certaines séquences. Situation offensive, tu vois qu'il est brillant. Là. Okay. C'est quelqu'un qui comprend bien la...
Ben, je suis content que tu me dises ça parce que tu voulais justement lui poser des questions sur tout l'épisode de la nutrition avec les Sea Dogs. Puis je me demandais s'il allait être gêné d'en parler. Mais écoute, si tu me dis qu'il
est honnête... La façon qu'il s'est exprimé dans les médias, je serais surpris qu'il soit gêné. Ça me semble être quelqu'un qui assume ses propos. Là, en tout cas.
Moi, selon moi, il ne me semblait pas nécessairement gêné. Là, je pense qu'il va être très en mesure de te répondre. Pour te dire à quel point il est intelligent aussi, si je me souviens bien, il avait considéré l'option d'NCA parce qu'il avait d'excellentes notes là, au niveau scolaire, entre autres. Ça, tu pourrais venir avec lui. Là. Mais je me souviens qu'il avait fait des démarches pour faire d'excellentes études en anglais pour améliorer son anglais également. Là, c'est quand même un joueur de la Beauce.
J'ai la
Beauce, là, mais peut-être que l'anglais est plus difficile.
Si tu as bien hâte d'y parler, on a bien hâte de te lire, Nick. Alors, je vous le rappelle, ce sera disponible sur tvasport.ca dans les prochaines heures, peut-être demain de ce soir.
On regardera ça. Je n'ai pas encore regardé ça avec mon chef de pupitre.
C'est bon, tu regarderas ça. Alors, à mon nom personnel et en celui de mes deux collègues, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous en souhaite une aussi belle cette semaine et je vous souhaite une victoire des Canadiens de Montréal ce soir face aux Sharks de San Jose, et ne ratez pas le match. Jeudi, Kotkaniemi débarque en ville. Ce sera bien intéressant. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.